C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à toutes et à toutes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 19 novembre et aujourd'hui nous allons parler de l'effet des œuvres d'art sur notre bien-être.
À l'occasion du millénaire, une étude intitulée « Art, bien-être, cerveau » va être menée à Caen. Son objectif, évaluer l'effet des œuvres d'art sur notre bien-être cérébral. C'est au Musée des Beaux-Arts que cette aventure collective ouverte aux volontaires aura lieu. Et pour en parler avec nous, nous serons justement accompagnés de Anne Bernardo, responsable de la programmation culturelle et de la communication au Musée des Beaux-Arts de Caen.
Mais avant cela, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Un traitement contre l'Alzheimer vient d'être approuvé par l'Agence européenne des médicaments.
Il a été baptisé Lecanemab. Ce médicament vise à réduire le déclin cognitif lié à cette maladie qui touche aujourd'hui près d'un million de patients en France. Concrètement, le Lecanemab est un anticorps monoclonal qui permet de réduire les plaques formées dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce traitement à administrer une fois toutes les deux semaines permettrait de réduire de plus de 70% les plaques formées dans le cerveau.
Et ce nouveau médicament est-il adapté à tous les patients ?
Malheureusement non, seuls les patients souffrant de la maladie à un stade précoce pourront bénéficier de cette avancée. Et parmi ces personnes, le traitement serait seulement adapté à celles qui ne posséderaient pas plus d'un gène APOE4, un gène connu pour causer des saignements dans le cerveau. Or, ces lésions sont justement un potentiel effet secondaire grave causé par le médicament. Le plus grand corail du monde a été découvert jeudi dernier par les scientifiques dans les îles Salomon.
Et oui, il a été découvert par hasard lors d'une expédition organisée par National Geographic dans le Pacifique. Les scientifiques ont d'abord cru à une épave en raison des dimensions, ce n'est qu'en se rapprochant pour l'explorer qu'ils ont découvert qu'il s'agissait en réalité d'un Pavona clavus, ou corail homoplate. De 34 mètres par 32, il fait la taille de deux terrains de basket, c'est trois fois plus grand que l'ancien détenteur du record. D'après les scientifiques, cela ferait environ 300 ans qu'il se développerait.
Et pourquoi cette découverte est-elle rassurante ?
Car si le réchauffement et l'acidification des mers ont dégradé les récifs moins profonds de la zone, ils ne semblent pas avoir terni ce spécimen. Une bonne nouvelle pour l'écosystème marin à l'heure où la moitié des espèces de coraux tropicaux sont menacées d'extinction à cause du réchauffement climatique. Le corail constitue en effet un habitat essentiel pour de nombreuses espèces marines. L'association bretonne Over the Swell propose une zone de protection internationale pour le requin baleine.
Réputé pour être le poisson le plus gros du monde, ce requin victime de la surpêche est aujourd'hui en danger. C'est pour cette raison que l'association de protection marine réclame l'instauration d'un couloir hauturier dans l'Atlantique Sud, une première mondiale. La zone s'étendrait du Cap-Vert à Sainte-Hélène, soit une distance de près de 4000 km.
Et ce projet a reçu le soutien financier d'une toute nouvelle fondation.
Exactement, la fondation Vendée Globe, créée cette année, s'engage dans la protection des océans et de leur biodiversité et s'aligne sur la proposition de l'association. Mais il faudra encore étudier davantage le parcours migratoire du requin-baleine perturbé par le changement climatique avant de définir un couloir et de le proposer aux instances internationales. Des scientifiques ont créé une bouche artificielle afin de mieux comprendre la transformation des aliments.
Tout à fait, il s'agit d'une langue en silicone capable de reproduire les mouvements et la pression d'une langue humaine. Elle a été élaborée par une équipe de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement à l'aide des données anatomiques mesurées à la Fujita Health Academy à Tokyo. Cette technologie de pointe va permettre d'étudier comment les aliments se décomposent dans la bouche. Prochaine étape, l'ajout de dents pour reproduire le phénomène de mastication.
Mais pourquoi mener de telles études ?
Eh bien car le danger de fausse route, le fait d'avaler de travers, représente aujourd'hui 4000 décès par an en France. Ce risque croît avec l'âge, en même temps que les problèmes de coordination et de tonus musculaires. Alors face à une population mondiale croissante et vieillissante, l'industrie alimentaire souhaite concevoir des produits plus adaptés. Le télescope James Webb a permis la découverte de trois galaxies ultramassives dans l'univers primitif.
Elles sont chacune presque aussi grosses que la Voie lactée et datent de moins d'un milliard d'années après le Big Bang. Plus surprenant encore, elles formeraient des étoiles presque deux fois plus vite que les galaxies de masse inférieure de la même époque.
Mais en quoi cette découverte est importante ?
Parce que ces trois masses nous permettraient d'approfondir nos connaissances sur la formation des galaxies. Pour l'heure, l'enjeu est de comprendre le processus permettant à certaines galaxies de devenir aussi massives aussi tôt dans l'histoire de notre univers. Des observations plus précises de ces monstres rouges, comme on les surnomme, sont déjà prévues. Et pour terminer ce flash coup d'œil dans le rétroviseur, il y a 17 ans, le 19 novembre 2007, Amazon lançait la toute première liseuse Kindle.
Conçue par l'entreprise de Jeff Bezos, la Kindle révolutionnait la lecture en offrant un accès numérique à 90 000 titres. Malgré un prix de lancement assez élevé, 399 $, les stocks ont été épuisés en seulement quelques heures.
Mais le Kindle était-il la première liseuse à voir le jour ?
Et non, le Kindle n'est pas le premier appareil de lecture de livres numériques à être commercialisé. Dès 1998, la société Nouveau Média a mis en vente sa première liseuse, le Rocket eBook, puis d'autres e-readers lui ont succédé. Mais ceux-ci n'ont pas connu le même succès commercial que le Kindle. Le catalogue était en effet beaucoup plus limité et la technologie encore hésitante. Avec Kindle, Amazon a su démocratiser la lecture numérique.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Découvrir une œuvre d'art augmenterait-il le bien-être ? C'est la question que s'est posée un groupe de chercheurs de Caen. Et pour y répondre, direction le Musée des Beaux-Arts où est menée l'étude depuis le mois de septembre. C'est la première fois qu'une expérience ayant cet objet d'étude se déroule dans un musée et non dans un laboratoire.
Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons Anne Bernardo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la programmation culturelle et de la communication au Musée des Beaux-Arts de Caen. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette étude ?
Ah oui, bien sûr. Alors, elle est née dans le cadre du millénaire, il y a déjà 2 ans. Le millénaire a initié des rencontres entre l'art et la science. Donc, c'était déjà l'idée de faire dialoguer ces deux cultures différentes. Et au cours de ces différents ateliers qui ont été nombreux, y a des acquaintances qui se sont révélées et en l'occurrence une envie très rapide de travailler ensemble avec l'équipe de Cicéron qui était représentée dans ces ateliers. Et pour le musée, il était aussi, à partir du moment où on a commencé à nous parler de dialogue entre l'art et la science, c'est tout de suite les différentes recherches qui sont menées dans les musées du monde entier qui nous ont paru intéressantes de proposer, en tout cas, l'étude des différents chercheurs, de voir si ça pouvait faire écho. Et ces études consistent à proposer aujourd'hui ce qu'on appelle même l'ordonnance, la culture sur ordonnance, qui est testée depuis plus d'une dizaine d'années au Canada, mais aussi maintenant en France, en Europe en tout cas, et qui rejoignait le projet scientifique et culturel du Musée des Beaux-Arts. Donc, projet scientifique et culturel, je fais une petite parenthèse. C'est un projet qui annonce pour les 10 ans à venir la stratégie du musée et ses différentes axes. Voilà. Et la santé en est un. Voilà pourquoi ça nous intéresse particulièrement, ces recherches qui sont menées à l'international. Et donc, on est venu à la rencontre de ces scientifiques pour leur proposer, en tout cas pour poser sur la table, parce qu'après, il a fallu se quitter, cette idée de faire une étude scientifique qui permettrait de démontrer ou pas, ça c'est tout les hypothèses qu'on pose dans une étude scientifique, donc de démontrer ou pas que quand on est dans un musée, alors après je vais préciser, hein, mais pour l'instant quand on s'est rencontrés, c'est comment on démontre qu'il y a du bien-être à être dans un musée et à regarder une œuvre d'art.
Et alors justement, les analyses, elles se réalisent au cours de visites du musée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe, ces visites ?
Oui, alors avant d'aller aux visites, donc du coup, je précise ce sur quoi finalement l'étude porte. Donc, on rencontre ces chercheurs qui sont très très enthousiastes sur tout un tas de recherches qui mènent déjà, hein, par exemple sur la musique, avec donc pour ne pas le citer, Hervé Platel, qui mène des études entre musique et personnes atteintes d'Alzheimer. Donc tout de suite, ça lui parle. Et donc, on discute pas mal pour être d'accord sur le même sujet d'étude. Et au final, le sujet d'étude, c'est donc, qu'on a intitulé « Art, bien-être, cerveau, une rencontre essentielle, point d'interrogation ». Donc, le sujet d'étude, c'est donc proposer à des participants 10 bien portants, ce qui fait toute la différence avec les autres études qui ont été menées. C'est une première différence, c'est qu'on va s'intéresser aux bien portants et pas aux gens atteints d'Alzheimer, etc. Et l'autre différence, c'est le quota. C'est-à-dire qu'on a plus de 200 personnes qui sont expérimentées. En général, je ne veux pas parler de choses dont je n'aurais pas connaissance, mais ce dont j'ai connaissance en général sont des études sur des petites échelles, donc des groupes de personnes atteintes de telle et telle maladie. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux différences, et c'est ce sur quoi on était très intéressés de s'attacher. Et le propos, alors pardon, c'est un peu précis, mais je crois qu'il faut poser ça avant de faire le reste, c'est de faire la démonstration de ce que le fait de regarder une œuvre, d'être en contact avec une œuvre dans un lieu où il y a des œuvres tout autour, c'est-à-dire pas dans une machine IRM. Donc, qu'est-ce que ça nous procure comme bien-être cérébral, puisqu'on va s'occuper du cerveau et pas du reste, sur un public bien portant. Voilà, vous avez le cadre bien, bien précis. Alors, pour répondre à votre question sur comment ça se passe, nous avons des doctorantes et des ingénieurs qui travaillent ensemble sur place pour à la fois mettre en place un questionnaire qui permet d'évaluer comment les gens se sentent avant et après. Et il y a des ingénieurs qui développent c'est pas une appli informatique, mais une façon informatique de... faudrait que ce soit elle qui vous en parle quand même, ce serait mieux. Moi, je ne fais que coordonner tout ça. Donc, qui, grâce à l'informatique, peuvent évaluer ce qui se passe dans le cerveau pendant. D'accord ? Donc, on a l'avant, le pendant, l'après, avec des façons différentes de les évaluer. Et donc, toutes ces personnes, doctorants, ingénieurs, accueillent le participant, la participante, et commencent par une slab d'enquête. Ça dure 45 minutes. Vont ensuite réellement devant des tableaux qui ont été sélectionnés. On peut en reparler si ça vous intéresse. Pourquoi, comment on les a sélectionnés. Pour regarder ce qui se passe dans le cerveau. Et repartent ensuite avec les doctorantes en salle pour recommencer une série de questions qui évaluent le bien-être.
Et vous en parliez, ces œuvres, comment elles ont été choisies? Lesquelles ont été choisies déjà?
Alors, lesquels, je ne vous le dirai pas, parce que les participants et participantes doivent être soumis à la surprise. D'ailleurs, les conditions de participation à cette étude sont assez drastiques, puisqu'il ne faut pas être venu dans le musée depuis 10 ans. Donc, ce n'est pas pour vous révéler les œuvres aujourd'hui, n'est-ce pas? En tout cas, ce que je peux vous dire sur le choix des œuvres qui a été fait là par l'équipe de médiation du musée, évidemment, dialogue toujours avec les scientifiques parce qu'ils ont leurs propres contraintes. Je vous la fais courte. Ce sont des œuvres qui ont une homogénéité dans le sens où ce sont des catégories qui peuvent permettre un regard quasi similaire. Je m'explique. Chaque participant va regarder quatre œuvres différentes dans quatre styles différents. Alors, il ne s'agit pas des styles artistiques ou esthétiques, il s'agit de ce qui est représenté sur la toile. Donc, avec le même encombrement visuel, par exemple, et si possible, avec un portrait, la première catégorie, donc on aura un portrait, un paysage, une scène de genre, donc scène de genre, c'est un marché, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le tableau, et un tableau cubiste. Voilà, donc chacun verra l'un de ces tableaux différents.
Et donc, vous en parliez tout à l'heure, avant de continuer plus loin dans l'étude, dans le cadre de ces analyses, vous faites une différence entre le fait de voir une œuvre reproduite sur un écran dans les IRM et une différence avec le fait d'être dans le musée face aux œuvres.
C'est ça, c'est exactement le sujet de l'étude. On ne cherche pas à étudier ce que la représentation, ce qu'une image, en fait, nous fait. On cherche à évaluer ce qu'une rencontre... Donc, il y a des conditions de rencontre avec une œuvre. Évidemment que quand vous ouvrez un livre, vous rencontrez une image. Mais ce qu'on appelle rencontre, c'est du vivant, c'est du live, voilà. Évidemment, quand vous écoutez un morceau de musique que vous aimez beaucoup, c'est chouette. Mais si vous le voyez en live, il se passe quand même des choses très différentes. Donc, c'est bien cette situation-là qui nous intéressait. Alors, pourquoi ? Aussi parce que je crois que vous avez, comme nous tous, entendu un certain, une certaine phrase qui était « la culture n'est pas essentielle ». Sous-entendu, on peut très bien se satisfaire de tout, enfin de nos ordinateurs pour avoir une rencontre avec la culture, quelle qu'elle soit. Donc c'est aussi ça l'idée, c'est de faire la démonstration scientifique que la culture est essentielle. Et du coup que le vivant certainement est essentiel. On est d'accord, un tableau c'est pas vivant. Par contre un musée, c'est vivant. Être dans un musée, c'est avoir des gens autour de soi, c'est avoir plein de tableaux, c'est avoir des mouvements... créés par les tableaux, les gens, etc.
Et justement, est-ce qu'il y a le côté collectif dans cette étude ? Est-ce que les participants, les volontaires sont ensemble face au tableau ou est-ce qu'ils sont seuls à chaque fois ?
Non, non. Alors, il y a deux cas de figure. Certains... Donc, en fait, les participants sont confrontés à différentes situations et pas tous aux mêmes situations. Déjà, ils ne voient pas tous les mêmes tableaux, même si je vous ai défini des catégories, voilà. Ensuite, ils ne vivent pas la même chose. Ils peuvent visiter tout seuls. Alors évidemment, ils sont accompagnés par une équipe avec un ordinateur, etc. Mais ils sont quand même tout seuls face à une œuvre. Ils peuvent avoir une médiation et ils peuvent rencontrer, en tout cas voir avec quelqu'un d'autre, l'œuvre. Être à deux, ce qu'on appelle les binômes. On n'a pas imaginé le groupe. Parce que ce qui nous intéresse, c'est... pas cette sociabilité à ce point, voilà. C'est une sociabilité à deux, mais c'est surtout ce qui se passe dans le cerveau d'un individu, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein. On regarde le cerveau, donc c'est quand même une question assez personnelle, pour le coup. Même si on va le réitérer à 200 exemplaires, voilà. Donc, c'est pas l'effet de groupe qui nous intéresse, voilà.
Est-ce que vous savez ce qui est mesuré exactement chez les participants ?
Ah oui, bien sûr. Donc, l'activité cérébrale. Ce que je peux vous dire à mon niveau, encore une fois, soyez indulgents, je ne suis pas scientifique. Ce que je peux vous dire à mon niveau, c'est que le cerveau fonctionne évidemment avec de l'oxygène et en fonction... Alors, ce qu'on appelle des émotions, je crois qu'il faut faire attention avec le cerveau parce que ce n'est pas tout à fait cette terminologie-là. Mais en tout cas, quand on éprouve... des sensations, voilà, je pense que c'est plus juste pour le cerveau que émotion. Il y a plus ou moins d'oxygène qui se déplace dans le cerveau, et donc, quand on regarde une carte de votre cerveau, une carte évidemment informatique, hein, il se passe des choses dans des zones différentes, avec des couleurs différentes que les scientifiques savent interpréter. Donc c'est ça qu'on regarde. On les équipe aussi de lunettes qui leur permettent qui leur permet aux scientifiques de suivre le chemin du regard. Et cela est évidemment couplé avec ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire quand ils regardent à cet endroit-là du tableau, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? D'où aussi l'importance de la cohérence des toiles. Voilà. Et puis, nous les équipons d'un petit... Bon, quelque chose qui mesure leur pouls. Je ne me souviens plus du nom, peu importe, de façon à corréler aussi avec les émotions coronaires.
Et donc vous êtes coordinatrice de l'étude en partie et vous êtes responsable du musée des Beaux-Arts de Caen. C'est quoi l'enjeu pour le musée d'abriter, d'héberger une telle étude ? Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure.
Alors, le premier des enjeux, c'est de... dialoguer entre cultures différentes. On n'a pas si souvent l'occasion de dialoguer avec ce type de scientifique. Je ne dis pas que la science et l'art, ça n'a rien à voir. Au contraire, on peut même dire que chaque artiste est un chercheur. Donc, la science, ça, c'est quelque chose qui est très, très présente au musée. Les historiens de l'art, enfin, bon, je ne vais pas vous faire la liste. Mais par contre, dialoguer avec ce type de recherche... qui est alors ce qu'on appelle la science dure, c'est absolument affreux, mais je pense pas qu'il y ait d'autres terminologies. En tout cas, se dire que les observations que l'on fait tous à l'échelle internationale, avec cette espèce d'intuition commune et internationale, c'est quand même assez étonnant de voir qu'on a, on a tous la même intuition, qu'elle puisse être validée par une étude scientifique, ça nous semble vraiment faire sens. Et quand on a commencé à travailler avec les scientifiques, ils étaient absolument emballés de cette rencontre aussi. Donc, premier enjeu. Second enjeu, je n'y reviens pas, vous le disiez vous-même, j'en ai déjà parlé, c'est d'enrichir le corpus de recherche et d'études qui existe sur ces questions. Et puis, peut-être le troisième aspect, c'est que dans le cadre du millénaire, quand soit... mise en avant pour sa dextérité, son excellence. Enfin, on a vraiment des chercheurs des installations, des personnes qui sont assez remarquables, et c'est bien aussi que ça se sache.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Nous sommes avec Anne Bernardo, directrice de communication au Musée des Beaux-Arts de Caen, pour parler de l'effet des œuvres d'art sur notre bien-être. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, un groupe de chercheurs participe donc à cette étude, réalise même cette étude. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés, rencontrés ?
Oh là là, on ne les a pas sélectionnés. non, on les a rencontrés dans ces fameux ateliers-là, il y a 2 ans. J'ai rencontré Denis Vivien, qui participait à cet atelier, qui était très présent, très intéressé, très intéressant. Et on s'est rencontrés tous les deux après pour petit à petit aboutir à l'étude dont le sujet ne vous est plus inconnu maintenant. Et ensuite, Denis, qui a une force de... coordination, certainement, a emmené, parce qu'il a tout de suite vu, à partir du moment où on est tombé d'accord sur le sujet, il a tout de suite vu l'ensemble des scientifiques qui travaillaient déjà de près ou de loin sur ce type de recherche. Et il les a emmenés, il les a mobilisés, intéressés, impliqués... Et ensuite recruter, puisque l'ensemble des doctorantes ont été recrutées. Voilà.
Et comment ça se passe, la collaboration avec les chercheurs ?
Plutôt très bien. C'est très intéressant, parce que c'est pas la même culture. Et en même temps, on a le même objectif. Donc ça, c'est plutôt chouette. Du coup, ça nous permet de passer outre toutes les divergences ou mal incompréhensions. On a quand même tous ce but-là à atteindre. Et on est attendu derrière, parce qu'il y a le millénaire qui finance, qui nous soutient, donc qui, bien sûr, attend les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Je ne suis pas en train de dire qu'on est absolument certain au final des résultats de l'étude. Donc les relations sont plutôt très intéressantes, très fournies. On s'est rencontrés beaucoup, beaucoup. Donc on commence à bien se connaître les uns les autres et à imaginer déjà d'autres projets. Voilà.
Et donc vous parliez des financements notamment. Concrètement, si on doit faire un état des lieux des personnes qui participent à ce projet, qui est quand même un gros projet, qui est-ce qu'il y a en fait ?
Qui y a au total ?
Oui.
Alors, il y a 6 labos, j'espère que je ne fais pas d'erreur et que j'oublie personne. Il y a 6 labos. Il y a toute l'équipe de Oblique. Donc, dans le projet, on a souhaité recruter très vite une équipe, on va dire artistique, qui accompagne le projet de façon à documenter et à offrir de la médiation sur le projet. Donc là, ça représente, c'est un peu à géométrie variable, oblique, mais là, sur ce projet-là, moi, j'en ai identifié, attendez que je les compte, 6. Et puis au musée, on est impliqué, alors on a recruté quelqu'un en service civique pour poursuivre la médiation du projet. Et on est 3 très impliqués, et puis ensuite à peu près tout le monde, puisque les équipes sont présentement au musée, Donc, ça implique des questions de surveillance, des questions d'accès au musée, donc avec des agents qui sont là pour donner des clés, hein, etc. Tout le monde est informé au musée, tout le monde sait très bien ce qui se passe, avec qui, quand, comment, où, et pour combien de temps.
Les études ont commencé depuis septembre dernier. Est-ce qu'il y a déjà des premières observations chez les participants ?
Pas du tout, non. Non, non, le traitement, l'analyse se fera après. Là, ça prend un temps énorme de recruter les participants et les participantes. Parce que quand vous appelez et que vous dites « je veux être participant », ce n'est pas pour ça que vous allez être pris ou prise. Il y a des conditions, comme je l'indiquais tout à l'heure. Je peux les rappeler d'ailleurs, c'est être majeur, ne pas porter de lunettes constamment. C'est-à-dire, moi, je porte des lunettes juste pour lire. Je pourrais faire partie de l'étude, parce que je les enlève pour regarder un tableau. Mais si vous portez des lunettes constamment, comme vous êtes équipé d'eye tracking, donc ce sont des petites lunettes, vous ne pouvez pas avoir deux paires de lunettes. Et ce fameux ne pas être venu au musée depuis 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est des conditions un peu rédhibitoires. Pourquoi je disais ça, d'ailleurs ? Pourquoi je parlais de...
Est-ce qu'on parlait des résultats potentiels déjà aujourd'hui ?
Et donc, c'est assez long de recruter, ensuite d'administrer à chaque fois les questionnaires, d'être sur place. Dès que les doctorantes et les ingénieurs ont terminé un passage avec des participants, une passation, je crois, ils appellent ça. Non, je crois que c'est encore un autre terme. Ils m'excuseront de ne pas être assez précise. Ils retournent à la prochaine, au prochain participant. Voilà. Et puis, ils ne font pas que ça, hein, quand même. Ils ont des études à mener, des recherches.
Et vous parliez de 200 volontaires mobilisés pour cette étude. Est-ce que vous les avez tous ou pas encore ?
Non, on les recrute toujours.
D'accord.
Voilà, donc renseignez-vous. Tout est sur le site du Musée des Beaux-Arts, par exemple, ou le site Oblique, ou le site du Millénaire, bien évidemment.
Et donc, vous parliez des enjeux d'allier art et science, notamment là, depuis 2 ans, dans le cadre du Millénaire de Caen. Est-ce que les Beaux-Arts ont déjà réalisé des projets de ce genre ou vont bientôt en réaliser de nouveaux ?
Alors, non, pas de ce genre-là. Oui, on va certainement continuer, parce que là, ce que je vous ai dit, on explore plutôt les adultes, hein, les majeurs, bien portants, etc. Ce qui nous intéresserait beaucoup, enfin surtout l'un des scientifiques, c'est de se pencher sur les enfants. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants ? Les enfants ne regardent pas du tout une œuvre d'art comme nous la regardons. Ils ont un souci du détail qui est bien différent d'une autre. Ils sont beaucoup plus englobants. Enfin, voilà, il y a certainement des choses très intéressantes à aller chercher de ce côté-là. Oui, c'est le début certainement d'autres études. Après, je ne vous cache pas qu'il faut quand même de l'argent. Voilà, beaucoup d'argent. Et que le musée n'a pas forcément des sommes à dédier. Mais il y a moyen de créer des partenariats avec d'autres musées, par exemple.
Et quand est-ce que les résultats de cette étude seront accessibles ?
Alors, a priori, on n'annonce rien avant la rentrée 2025, voire la fin de l'année 2025. Voilà.
Et où est-ce qu'on pourra les retrouver ?
Alors, sur les sites d'absolument tous les partenaires, ça, c'est une première chose. J'imagine qu'on va réussir à faire une publication. Et puis, on a tout un programme de médiation. Et de présentation, donc certainement à l'université, puisque c'est peut-être la cible qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Certainement qu'on présentera les résultats à l'université, à l'Amphidore ou ailleurs. Voilà.
Ça fait plusieurs fois que vous évoquez la question de la médiation de cette étude. Comment elle est organisée, cette médiation ? Est-ce que déjà aujourd'hui, vous avez commencé
Ah oui, complètement, ouais. On a commencé par exemple avec la presse, en faisant des conférences de presse. Ça fait partie de la médiation, hein. Parce qu'ils sont nos relais, en fait, pour parler de... C'est de la communication, si on préfère. C'est pas réellement de la médiation. Mais enfin, bon. Donc, on a commencé la communication-médiation en présentant le projet à la presse. Et très récemment, on a fait une simulation En les invitant à s'équiper eux-mêmes, à voir ce qui se passait sur nos écrans et à poser leurs questions. Et c'est une simulation qu'on va reproposer au grand public, par exemple dans le cadre de Turfu, que vous connaissez, voilà, qui propose toujours des expériences en direct, avec des vraies études scientifiques en cours. Mais pas seulement, une équipe d'ingénieurs était sur le phéno et a aussi proposé au public qui passait de s'équiper de l'ensemble de nos matériels pour imaginer un petit peu ce dont il s'agissait, et puis pour recruter aussi. Voilà, donc oui, médiation, il y aura rendez-vous, et toute l'équipe d'Oblique dont je vous parlais a documenté, c'est-à-dire réalisé des photos, réalise en ce moment nombre de courtes vidéos qui présentent les différents interlocuteurs, interlocutrices et qui présentent le déroulé du projet. Voilà.
Merci beaucoup Anne Bernardo d'être venue à notre micro. On le rappelle, vous êtes directrice de communication au Musée des Beaux-Arts de Caen. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Ce soir, de 18h à 20h, la Maison de la Recherche en Sciences Humaines organise une double projection au Café des Images, au programme deux métrages réalisés par des chercheurs géographes en collaboration avec les habitants d'Hérouville-Saint-Clair. Ils vous proposent leur regard personnel et intime sur un environnement urbain en pleine métamorphose. L'entrée est gratuite, il est toutefois conseillé de réserver votre place en amont.
Une formation Dernier Secours ouverte à tous est organisée ce mercredi 20 novembre. L'objectif, apporter au grand public des repères, des gestes simples et des réflexes à avoir quand on accompagne quelqu'un dans sa fin de vie. Animée par un binôme soignant-non-soignant expérimenté dans les soins palliatifs, elle se tiendra à la Maison des Associations demain de 10h à 16h.
Samedi 23 novembre, la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, vous convie à un colloque sur les jardins remarquables de Normandie à l'occasion des 20 ans du label. Vous y retrouverez propriétaires de jardins labellisés, experts et passionnés, avec lesquels vous pourrez converser autour de diverses tables rondes. C'est en entrée libre à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Rendez-vous de 10h à 17h ce samedi. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Émile à la technique. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.